Nous allons donc poursuivre avec notre sujet principal intitulé Parcours libriste. Ça doit être de mémoire le quatrième parcours libriste. L'idée étant d'inviter une seule personne pour parler avec elle de son parcours personnel et professionnel, un parcours individuel mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Alors notre invité du jour c'est Anka Luca, directrice technique de l'équipe service client de la société XWiki, présidente bénévole de Open Food Facts. Bien sûr on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure dans l'émission. Et l'interview va être menée par la présidente de l'April, Magali Garnero, donc je vous laisse la parole à vous.
Alors salut Fred, salut Anka,
salut Magali,
ça fait super
salut
plaisir
Fred.
De t'avoir là
salut
avec
tout
moi.
Le monde.
Pardon, ça fait super plaisir de t'avoir avec moi parce que ben avant l'émission on discutait et on se rendait compte qu'on se connaissait depuis plus de 10 ans, c'est rare. Donc ben
c'est bien.
C'est bien.
C'est normal de connaître des gens depuis longtemps.
Voilà, je vais faire ma petite vieille. On s'était rencontrés dans des soirées de contribution au libre organisées par Parinux. Et à l'époque, ça se passait à la FPH, la Fondation pour les progrès de l'homme de Charles-Léopold Meyer. Moi, j'étais à l'époque trésorière de Parinux. J'organisais ces soirées de contribution, c'est-à-dire que tous les jeudis soirs, on se réunit à plusieurs geeks et on faisait de la contribution sur plusieurs logiciels. Alors moi, c'était plutôt pour faire des trucs de l'April, mais toi, t'es venu une fois et c'était pour Open Food Fac.
Tout à fait.
Open Food Fac. Et comment t'es venu à ça?
Alors, Open Food Fact, c'est un projet qui fait une base de données libre des données alimentaires, des informations alimentaires, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve sur les étiquettes des produits alimentaires dans les supermarchés ou partout où ça se vend. On recueille tout ça, on scanne tout ça et on le met dans une énorme base de données libre. C'est important que ce genre de données soit libre parce qu'en réalité, ça appartient à tout le monde. Il y a plein de lois qui légifèrent ce qui doit être écrit sur les étiquettes pour informer le public. Mais par contre, le traitement, on va dire, massif de ces données-là ne peut pas se faire au produit par produit. Donc, c'est très important d'avoir une base de données de la totalité. Et c'est extrêmement important que cette base de données soit libre parce que c'est en réalité un bien commun. Donc, c'est ça le projet Open Food Facts. Moi, je l'ai découvert parce que j'aime la nourriture.
Nous aussi, on aime
donc,
la nourriture.
Ouais, exactement.
La bonne nourriture.
Et aussi, non seulement j'aime la nourriture mangée, mais la diversité, les goûts différents, qu'est-ce que les gens mangent là-bas. Le fait que la nourriture, c'est en réalité un moment de partage parce qu'on mange avec d'autres gens et on discute avec eux ou on mange en famille. On mange avec des gens qu'on ne connaît pas, les plats de leur pays, par exemple, ou de leur culture, et on découvre pas mal de choses. Donc, cette diversité, en fait, qui est dans la nourriture, ça me plaît. Et j'avais découvert ce projet-là dans des salons de libres. Stéphane Gigandet, le fondateur de la base de données, il venait sur les salons, il y avait toujours
de la bouffe sur les stands.
De la bouffe sur les stands, bah oui, voilà, je pense que la première fois, je suis allée pour les fraises Tagada. Et j'ai découvert ça, j'ai découvert ce projet, je l'ai intersecté plusieurs fois avant de en rentrer dans le projet, on va dire. Et à un moment donné, quelqu'un m'a ajouté sur un chat.
Est-ce qu'on peut dénoncer?
On va dénoncer parce que ce n'est pas une dénonciation, mais c'est plutôt un... Il y a plein de mots anglais qui me viennent, donc je vais essayer de trouver les mots français qui correspondent. Un hommage à Pierre, et à Pierre Slavich et à son travail de construire des communautés, trouver des gens, ajouter des gens, inclure des gens dans des projets. C'est assez spectaculaire à voir comment ça se passe. Ça passe par plusieurs méthodes, plusieurs techniques, mais il arrive à trouver pas mal de gens, il arrive à les inclure dans les projets. Ça doit être lui qui m'a ajouté sur un chat du groupe, et sur ce chat-là, j'ai découvert, c'était annoncé, soirée de contribution à la FPH, soirée de contribution à la FPH. C'était plutôt sous forme de spam à un moment donné. Mais il se trouve qu'un soir de novembre, je pense, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'aller rencontrer les gens qui faisaient l'application. J'avais déjà un compte, je contribuais déjà des produits, je scannais déjà des produits parce que la manière dont ça se passe, c'est qu'on scanne les produits avec on scanne les codes barres des produits alimentaires avec son téléphone mobile et on retrouve les informations. Et s'il y a des informations manquantes ou les copies des étiquettes des produits, à l'époque, on les copiait. Aujourd'hui, on sait faire mieux, on prend des photos, on laisse les robots faire parce que la technologie est passée dans une autre époque depuis il y a 10 ans. Et je suis allée aux soirées de contribution. Je pense que je n'ai pas écrit une ligne de code de contribution parce que à cette occasion, j'ai également découvert que écrire du code sur un coin de table n'est pas mon super pouvoir. Ah. Pas sur un coin de table.
Directement sur le clavier avec un ordinateur.
Il est... Moi, j'écris du code pour la prod directe, ah j'ai oui. envie de dire. Oui,
toi, tu ne testes pas ta confiance.
Non.
La prod, sur... tu peux expliquer ce que c'est?
La prod, c'est, on va dire, la, c'est ce qu'on appelle dans le, la production. C'est le serveur de production, c'est-à-dire directement ce qui va être utilisé par les gens. Il n'y a pas de prototype, il n'y a pas de test, il n'y a pas de... C'est un petit essai, comme ça, on verra si ça marche ou pas. La prod, c'est le truc qui doit tenir debout et tout ça. Je teste, en fait, c'est pas, je suis pas, je mets pas du code en prod que je ne teste pas. Mais justement parce que je teste, on peut pas le faire sur un coin de table, on peut ouais. pas le faire dans 30 minutes. Ça va prendre 3 heures parce qu'il y aura toutes les vérifications nécessaires, plus 3 couches supplémentaires de vérification de la vérification. Parce que pour mettre un prod...
Les soirées de contribution ne duraient pas 3 heures.
Exactement, c'était bien ça le problème. Donc du coup, à cette occasion-là, j'ai découvert que mon super pouvoir n'est pas celui-là, du code écrit vite, un prototype, etc. Par contre, le projet me plaisait beaucoup. J'ai fait des présentations du projet, de la communication autour du projet. J'ai fait du stand. On est allé ensemble au oui. village associatif à Beauvais, je pense. Oh, c'était oui. les journées de la ville. Je me rappelle plus ce que c'était.
C'est les rencontres mondiales du logiciel libre à Beauvais.
C'était la rencontre mondiale. Je sais, c'est possible. C'est je possible. Me rappelle plus ce que c'était comme événement.
Ça dépend si les bonbons c'était des tagadas ou des bananes ou des.
Et donc j'ai fait beaucoup de stands, j'ai fait des présentations, je suis restée proche du projet. Et voilà, je suis restée proche du projet. À la base, je voulais contribuer du code, des choses, des fonctionnalités, autres que ce que je faisais au travail. On va parler plus tard de ça potentiellement. Et c'est devenu plutôt du travail, de l'activité, beaucoup plus communication qu'autre chose.
Après, c'est vrai que pendant les soirées de contribution, on passait une heure à discuter en mangeant. Et puis ensuite, on passait une heure à discuter sans manger.
On passait 10 minutes à scanner tous les produits
voilà,
que les gens amenaient.
Avec des courses.
On venait avec un petit goûter et on scannait tout et après on mangeait.
Ouais, c'est vrai, on mangeait avant, après. Mais bon, c'est vrai que j'ai goûté des choses assez originales, y compris des produits qui ne venaient pas de France, puisque ben, la base de données est assez vaste. Je me rappelle de bonbons qui étaient infects, je me rappelle de petits gâteaux avec écrit sur les boîtes en langue étrangère. Enfin, c'est vrai que c'est mémorable.
Ok, on ne va pas nommer des pays parce qu'on ne va pas insulter la cuisine d'autres pays.
Mais cette base de données, elle existe dans combien de pays?
Tous les pays.
C'est un projet.
Je ne sais pas le nombre de produits dans chaque pays, mais le principe du projet, c'est un projet international et mondial par principe. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de spécifique pour que ça soit applicable dans un autre pays. On scanne un produit, on dit qu'on l'a acheté là-bas, et ça devient le premier produit de là-bas.
De là-bas.
Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une carte. Je me rappelle cette carte qu'il y avait sur le site avec les couleurs des pays. En fonction du nombre de produits dans chaque pays, effectivement, la France, c'était le bleu le plus foncé qu'on avait. Mais je pense qu'il n'y a pas d'endroit blanc. Peut-être la Corée du Nord uniquement. Je ne sais pas si quelqu'un a scanné des choses de la Corée du Nord. Je ne sais pas s'il y a un truc à scanner. Si ça se trouve, ils n'ont pas de code barre. Je ne sais pas comment ça marche.
On ne sait pas. Donc, si quelqu'un sait, qu'il n'hésite pas à nous le dire sur le chat de l'émission. Comme ça, on pourra apporter cette information à tout le monde. Mais tu dis que tu faisais pas de code, que tu faisais beaucoup de communication, mais j'ai cru voir dernièrement que tu faisais plus que de la communication, que tu avais un poste assez enviable.
Oui, il s'est passé des choses entre-temps. Entre-temps, et d'ailleurs c'est assez beau comme histoire, entre-temps, le projet Open Food Facts a eu des... C'est une association loi 1901, donc pour raconter un peu la structure juridique. Et on a eu des financements. On a eu des projets financés, des sous pour financer le développement de ce projet qui, à la base, au début, était complètement 100% bénévole. Il y avait zéro revenu. Tout ce qui était collecté par les contributeurs, donc qui installaient l'application, qui scannaient des produits et qui remplissaient la base de données de produits d'Open Food Fact. Et on a eu des financements, donc on avait un peu de budget. Et une des premières questions qu'on s'est posées, c'était d'essayer d'avoir... Une équipe permanente, mais plutôt dans le sens de rémunérer les gens qui passaient déjà tout leur temps à faire ça. Parce qu'il y avait déjà des gens dans le projet qui n'avaient pas vraiment d'autres activités ou qui avaient une peu d'autres activités en dehors de Point Food Facts, donc qui passaient beaucoup de leur temps journalier à travailler pour ce projet ou à mettre leur énergie dans ce projet et qui n'étaient pas rémunérés par le projet. Et on s'est dit, bah, ça reste quand même un peu fragile, ce genre de choses, parce que si jamais ces gens-là ont besoin de manger comme tout le monde, ils vont devoir prendre un job, ils vont avoir moins de temps, etc. Donc si on peut les rémunérer pour créer un commun, ce qui fait partie de mes convictions, pour moi, il n'y a pas de commun, il n'y a pas d'open source, il n'y a pas de libre qui peut se matérialiser de l'air clair, en fait. Ça ne peut pas marcher, c'est pas sustainable, c'est pas... Il y a beaucoup de risques qui sont associés au fait qu'on laisse les communs être produits par des gens qui font ça dans leur temps libre.
D'accord. Et alors, du coup, vous avez embauché des salariés ?
Du coup, on s'est posé la question d'avoir une équipe permanente et dans les statuts de l'association... Le président ne peut pas être rémunéré.
D'accord.
Et donc Stéphane, il a dû laisser son poste de président. Le prochain sur la liste qui était bien placé parce que très actif dans l'association à l'époque, qui est Pierre, il était aussi sur la liste des embauchables, donc lui non plus, président, et donc il y avait besoin d'un président et je me suis présentée aux élections et je suis présidente d'Open Food Facts depuis... Là, je me rappelle vraiment pas. Ça doit être 2018 2018.
Avant le Covid.
Oh, avant le Covid. Oui, carrément. Avant le Covid.
D'accord. Du coup, tu deviens présidente pour que Stéphane et Pierre soient embauchés. Vous avez d'autres salariés depuis ?
On a beaucoup d'autres salariés depuis parce qu'on a aussi beaucoup d'autres financements depuis. On a eu un très gros financement de la part d'un acteur qui fait partie des GAFAM dont on ne va pas prononcer le nom.
D'accord.
Par leur programme de financement des libres, enfin des communs. En fait, c'est même pas un programme des... C'est... On va prononcer quand même les noms. C'est Google Impact Challenge. Et c'est un projet qui vise à financer des associations qui ont un impact sur le monde. Qui vont...
Si vous changez le monde.
Exactement. Qui change le monde. Voilà. Qui rendent le monde un meilleur endroit. C'est un peu grand comme ça, mais c'est très... ça correspond au personnage, on va dire, à la vision. Et donc on a eu un financement, c'était pas notre premier financement, c'était bien par exemple la Santé publique France a été avec nous, c'est un de nos premiers financeurs et qui nous a, avec lesquels on a travaillé depuis quasi le début. Donc on avait aussi déjà des acteurs en France qui nous faisaient confiance. Ce financement par Google Impact Challenge a été assez spectaculaire, donc ça nous a permis d'avoir une équipe permanente assez intéressante. Et aujourd'hui, ils font un travail extraordinaire chez Point Food Facts. Je dis ils font parce que je suis présidente, mais que ça soit très très clair, à part signer des papiers, moi je ne bosse pas. C'est les permanents qui font la plupart du travail, et donc tout ce que vous voyez comme les permanents et les contributeurs. Donc tout ce que vous voyez comme résultat sur Point Food Facts, c'est le travail des permanents d'un côté et des contributeurs bénévoles qui contribuent de la data dans leur temps libre et qui corrigent de la data et qui...
La data ?
De la donnée.
La donnée, ok.
Pardon.
Alors, je précise, je vais faire un peu de bruit, je vais me lever pour mettre le chauffage en fait.
Ah, tu vois, toi aussi, t'as froid parce qu'il se moquait de nous.
Que le directeur d'antenne de la radio me rappelle qu'on peut allumer le chauffage. Parce que, voilà, je précise que certaines personnes ont froid, donc je vais faire un peu de bruit pour allumer le chauffage.
Voilà, non, mais c'est vrai que moi je suis avec le manteau, l'écharpe et tout, donc c'est cool qu'il y ait du chauffage. Alors, est-ce que tu aurais une idée du nombre d'employés et de contributeurs, contributrices qui participent à ce projet ?
Non, j'ai pas préparé le sujet, je suis désolée. En termes d'employés, je pense qu'on doit être à peut-être par les 7, 8, 10, par là, quelque chose comme ça. Il y a des CDI, il y a des CDD. On essaie de voir comment on transforme tout ça en CDI, de préférence. voilà, c'est un sujet. Le financement d'un tel projet, c'est un sujet. Et c'est d'ailleurs un des sujets qui, moi, m'intéresse beaucoup, le financement du libre, de l'open source et des communs. C'est quelque chose qui... C'est une sorte de justice dans le monde qui doit être restaurée. Mmh. De mettre de l'ordre dans les choses et dans les valeurs du monde qui doit être faite par le financement des libres et des communs. Ouais, on va peut-être parler plus tard. C'est le fait que l'open source soit gratuit ou que le libre soit gratuit,
c'est indispensable.
C'est peut-être indispensable, mais c'est aussi un piège parce que la gratuité veut dire que potentiellement on ne reconnaît pas le fait qu'il y a des gens qui bossent pour faire ça, pour rendre ça possible. Donc de mon point de vue, comme il y a des gens qui travaillent pour rendre ça possible, si on dit que ces gens-là vont travailler dans leur temps libre pour rendre ça possible parce qu'ils ne sont pas rémunérés, parce que c'est gratuit...
Ça enlève de la valeur.
Ça enlève la valeur. Ça enlève fondamentalement la valeur de ces choses-là et de ce travail-là. Et pourtant, ce travail-là, il est probablement bien plus... Il y a bien plus de valeur dans ce travail-là que dans un travail très, très, très rémunéré qui n'est pas libre et qui n'est pas, ou qui est dans un autre contexte. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est important d'établir cette relation entre le financement et le résultat qui est le code libre, qu'il y a une chaîne entre les deux et que cette chaîne fonctionne pour justement reconnaître la valeur de ce qui est produit.
La valeur du travail, en fait.
La valeur du... c'est philosophique, du travail ou de ce qui est produit. C'est-à-dire que est-ce qu'on regarde
produit, vu que travail ça vient de souffrir, effectivement, ce qui est produit.
C'est une bonne question. C'est-à-dire si les gens mettent de l'énergie, mais ils n'arrivent pas à un résultat touchable ou voilà, où ils mettent de l'énergie dans une exploration d'une nouvelle idée qui ne mène nulle part. Est-ce que cette énergie-là mérite rémunération ou pas, vu qu'il n'y a pas de résultat? Probablement oui, parce qu'il y a quand même un résultat quelque part. Il y a un effort, il y a une énergie, il y a quelqu'un qui a mis son être au service de produire, d'essayer de produire quelque chose.
Et alors comment ça se fait, parce que c'est une question que je me pose souvent, toi jeune femme, dans les années 2010, tu viens dans cette communauté Libris pour rencontrer les gens d'Open Food Fac, qu'est-ce que tu avais comme bagage scolaire, diplôme et compagnie pour avoir ce courage-là, ou est-ce...
Ah, le courage, ouh. Alors, donc moi je viens de Roumanie, à la base, je suis roumaine. D'ailleurs, j'aime bien dire que je suis roumaine plutôt que je viens de Roumanie.
Ouais.
Parce que moi je considère que je suis roumaine ou française ou autre chose à partir du moment où j'ai pas besoin qu'on m'explique la culture de ce pays-là.
D'accord.
La culture et la société. Donc moi j'ai vécu jusqu'à mes 26 ans en Roumanie, donc j'ai besoin qu'on m'explique rien du tout. Je comprends, je sais, j'ai les références, j'ai les blagues, j'ai la langue, j'ai tout ça. Et là-bas, donc, j'ai fait toutes mes études. J'ai fait école, des études à l'université, on va dire. Le système est complètement différent. D'ailleurs, je ne comprends pas le français. Le système français, des études, de tout ça, des écoles, des universités, des trucs, c'est compliqué. Donc, j'ai fait des études d'informatique à l'université en Roumanie. 4 ans, moi j'ai fait 4 ans, parce que c'était pas aligné avec le système européen, donc j'ai fait 4+2, plus 2 années de master. Dans ma deuxième année de master, j'ai fait une échange Erasmus, c'est génial Erasmus, donc j'ai fait une échange Erasmus à l'université de Strasbourg, donc j'ai eu contact avec la France, mais même avant ça, j'avais commencé à travailler pour une boîte française, on va peut-être parler de ça après.
D'accord.
J'avais commencé à travailler pour une boîte française, donc j'avais des contacts avec la culture française, j'ai fait un échange Erasmus à Strasbourg, j'ai fini mes études en Roumanie, j'étais assistante pour les travaux pratiques à l'université en Roumanie, dans ma fac,
okay.
Sur les sujets de technologie web. Donc mes études, c'est les études d'informatique, c'est une informatique très logicielle et théorique. Nous, on n'a jamais soudé deux circuits ensemble. On n'a jamais eu
ce genre de... Pas de matériel, donc.
Pas de matériel du tout. On a fait plutôt maths algorithmique, logiciel.
D'accord. Donc, tu développes des logiciels, tu maintiens des logiciels, Pour les noobs, pour les gens qui ne connaissent rien en informatique, tu fais quoi exactement avec...
Je suis développeuse à la base, mon métier, moi je développe des logiciels et après de ce métier-là, on évolue dans différentes directions en fonction de son travail, de son poste, de la situation et de ce que ça nous plaît finalement. Donc aujourd'hui, ce que je fais, mon métier aujourd'hui, c'est architecte de solutions chez XQSAS.
D'accord.
Architecte de solutions, c'est plutôt... On va peut-être parler après, parce que c'est un peu
complexe.
Peut-être
après la pause musique. Je ne sais pas dans combien de temps tu veux lancer la pause musique.
Tout dépend si vous voulez une pause ou pas musique, en fait.
On veut une pause musique.
D'accord. Vous avez encore 5-6 minutes.
D'accord. Bon, bah du coup, on parlera de XWiki après. Et je reviens sur Open Food Fac. Est-ce que vos employés continuent à biper des codes barres ou à photographier des paquets de produits alimentaires ou...
Les employés et les contributeurs également. On bip, on photographie, on fait toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on a aussi cette On a créé une plateforme producteur par laquelle les producteurs de l'alimentaire puissent venir contribuer à leurs données. Parce qu'eux, ils ont déjà les données. Oui. La liste d'ingrédients de tous les produits qui sont produits par une marque de... Je sais pas, une marque de jambon, par exemple. Eux, ils ont leur liste. Et on a voulu mettre en place, et on a mis en place, d'ailleurs, c'était un financement de projet par un de nos partenaires. Je me demande si c'était pas Santé Publique France, mais j'espère que je me trompe pas. Pour construire cette plateforme producteur sur laquelle les producteurs peuvent venir et contribuer direct leur base de données. Donc, on a réussi à convaincre les producteurs à venir contribuer à une base de données libre.
C'est génial, ça.
C'est génial. C'est-à-dire que le projet Open Food Facts a quand même, pas uniquement le projet Open Food Facts, mais il y a d'autres projets dont je ne vais pas prononcer le nom, mais il y a d'autres projets qui ont contribué à ce changement du regard sur l'alimentation. Et nous, on a insisté, on a toujours tenu à ce côté libre et à ce côté la donnée, à ce côté facts finalement. C'est-à-dire la donnée, on peut faire plein de choses avec. Ce qui est important, c'est de l'avoir. Et de l'avoir en libre, avec le droit de l'utiliser et le droit de faire des choses avec. Et c'est ça qu'on a construit. Il y a eu plein de changements qui sont liés à toutes ces discussions autour de l'alimentation qu'on a eues dans les dernières 10 années. Et Open Food Facts a contribué à ça, a contribué à ce changement de regard, surtout par le libre. Et la donnée appartient à tous, on a tous le droit de l'utiliser, il faut qu'elle existe sous une forme qui permet à tout le monde de l'utiliser. Et les producteurs, ils viennent, ils contribuent, ils enrichissent la base de données.
Du coup, est-ce que vous savez combien de personnes utilisent votre base de données libre ? Est-ce qu'il y a moyen de savoir ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en vantent ? Est-ce qu'il y a des gens pas bien qui l'ont fait ?
Utiliser la base ? Il y a eu des applications qui ont utilisé la base, par exemple l'application Yuka, qui est connue un peu partout, qui a été très connue. Ils ont eu plein de téléchargements, plein d'installations, plein de présence dans la presse et dans les médias. Cette application, à la base, elle était construite sur notre base de données libre. Et comme la licence de la base de données libre dit qu'à partir du moment où on construit des données, on ajoute des données par-dessus des données libres, ces données qu'on ajoute par-dessus doivent également être libres, ça a permis à enrichir la base de données. Donc la licence libre, la licence ODBL nous a aidé, ou a aidé, on va dire, les communs à être enrichis par tout utilisateur potentiel de la base de données. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une bonne licence.
Effectivement.
Alors, on va juste, avant la pause musicale, je vais juste préciser ODBL, Open Database License, donc licence de données ouvertes.
Oui.
Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant la pause musicale ? Tu es la chef, Magali. Hein.
Oh, mais je le sais, Fred. non, tu peux lancer la musique.
Ok. Alors, juste avant la musique, avant que j'oublie, si vous voulez en savoir plus, encore plus sur Open Food Facts, oui, je vous renvoie à l'émission 44 de Libre à vous, avec déjà Anka Luca, ouais, et avec Pierre Slamich. Donc, c'était en 2019. C'est sur libreavous.org/44. Et en attendant, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter I Did the Thing I Said I'd Never Do par Chris Zabriskie. On se retrouve dans 2 minutes 10. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Thank you.
Nous venons d'écouter I Did The Thing I Said I'd Never Do par Chris Zabriskie, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 4.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons poursuivre notre sujet principal, donc toujours avec Anka Luca, directrice technique de l'équipe service client de la société XWiki, présidente bénévole de Open Food Facts, qui a été bien abordée avant la pause musicale, interview menée par la présidente de l'April, Magali Garnero.
Alors du coup, on revient à toi. Donc tout à l'heure, tu as dit que tu faisais Erasmus en France.
Erasmus à Strasbourg.
Ouais, mais que tu avais déjà travaillé pour XWiki.
Oui, donc à la fin de mes études en Roumanie, pas tout à fait à la fin de mes études, à la fin de mes études de licence en Roumanie, XWiki SAS connaissait des gens. XWiki SAS existait déjà depuis 2003, qui est une société qui fournit des services et édite le logiciel libre XWiki, que vous pouvez retrouver sur xwiki.org si vous voulez voir de quoi on parle et qu'est-ce que c'est. On va peut-être raconter ça un peu aussi. Donc, il y avait déjà, la société existait déjà. Et par un programme d'échange sur open source qui est le Google Summer of Code organisé par Google, les gens de France qui faisaient ce logiciel ont rencontré des gens en Roumanie, des étudiants qui se trouvent qui étaient mes profs à l'université. Enfin, des étudiants, c'était pareil, c'était des étudiants en master qui faisaient les TP, qui étaient assistantes de travaux pratiques à l'université. Et donc, étonnée par la qualité et le prix bas de ces personnes-là, les dirigeants de la société en France, enfin les dirigeants, le dirigeant, parce qu'il n'y avait pas grand monde en France non plus.
Tu peux même donner son nom, là, j'étais déjà dans l'émission.
Je peux donner son nom, Ludovic Dupost. Il dit, bah, c'est super intéressant, est-ce que vous avez d'autres copains comme vous qui sont méga compétents et pas chers? Et donc, XWiki Roumanie est né d'une opportunité, en fait. Je le dis toujours, c'est très important de comprendre que XWiki n'a pas cherché à ouvrir une filiale en Roumanie. C'était une sorte de chance, une sorte de rencontre comme ça à travers les pays par l'Internet, qui a fait que XWiki SAS a ouvert un petit bureau en Roumanie de 3-4 personnes.
Et ces 3-4 personnes, c'était tes profs ou...
C'était moi.
Toi, ok.
Deux collègues et mon prof de TP.
Donc tu commences à travailler pour XWiki en Roumanie.
Donc je commence à travailler pour XWiki en Roumanie. Mon premier travail. J'ai choisi ce travail-là. Il y avait d'autres offres.
Ouais.
J'ai choisi ce travail-là parce que c'était open source. C'était vraiment exotique. Ça n'existait pas. Et je pense que même aujourd'hui, ça n'existait pas. On nous a parlé d'open source à l'université. On savait ce que c'était. C'était très intéressant. Et le fait de pouvoir faire de l'open source et être payé pour ça, c'est quand même étonnant.
Alors, vous inquiétez pas, on entend des bruits bizarres aussi. On ne sait pas d'où ça vient, en fait.
Et en plus de ça, c'était une plateforme web qui était, pareil, quelque chose d'exotique. Moi, là, je parle de 2008. En Roumanie, il n'y avait pas vraiment d'application. Enfin, pour nos
internet,
pour nos auditeurs plus jeunes, tout ne se passait pas dans le navigateur en 2008. Tout ne se passait pas sur Internet en 2008. Donc, il y avait toujours des logiciels classiques, des choses comme ça. Il y avait donc une application web, donc qui n'est pas un site de présentation où on met 3 images et 4 textes. C'était extrêmement rare. Donc, tout ce qui était travail dans le web en Roumanie, c'était plutôt pour faire de l'agence web, de la présentation, des images, des textes, etc. Donc, faire une application web, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'étais plutôt dans ce côté-là de la technologie informatique. Le web, ça me plaisait beaucoup, je voulais faire ça. Donc faire une application et qu'en plus elle soit open source, c'était vraiment extraordinaire. Donc quand on m'a proposé ça, j'ai dit forcément je vais faire ça. Ça m'intéresse même pas ce qu'il y a d'autre comme offre, je veux faire ça. Et surtout que il y avait mes profs de TP qui étaient des personnes qu'on appréciait beaucoup, donc ça a aidé aussi à faire ça. La structure en Roumanie a pris un certain moment à se créer du point de vue légal. Donc on a eu, je pense, 2 mois de travail sans salaire, un truc comme ça.
Ah, vous étiez vraiment pas cher, en fait.
On était vraiment, 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 on va dire, bon marché. La Roumanie a changé beaucoup depuis. À l'époque, on n'était même pas en Europe. C'était en 2007. J'ai commencé à travailler pour XWiki en Roumanie. C'était même pas en Europe. C'est entré en Europe en 2008. Et 2 mois plus tard, moi, je suis partie à Strasbourg. Ou non, je me trompe peut-être. J'ai entré en Europe en 2007. Mais voilà, très, très proche, très près après ce... Très près de ce moment, moi, je suis partie faire mon Erasmus à Strasbourg et rencontrer mes collègues de XWiki France et toutes ces choses-là.
Alors, du coup, tu pars sur Strasbourg, tu t'installes sur Strasbourg pour tes études et après, à la fin de tes études, tu obtiens un diplôme.
C'était un semestre de mon master. Donc, j'ai mon diplôme de master en système distribué en Roumanie. Et ensuite, je donne des TP aux étudiants à l'université. J'apprends beaucoup de choses sur la pédagogie. Enfin,
Ah oui, forcément, il faut que tu encadres des petits jeunes.
C'est pas des petits jeunes, c'était des personnes qui avaient 2 ans de moins que moi, même pas en fait. La première année, c'était assez spectaculaire parce que moi, j'étais master 1 et eux, ils étaient dernière année de licence. Donc, c'était des gens que je rencontrais dans le campus, dans les bâtiments des étudiants. Et le lendemain, ils étaient mes étudiants et je devais les évaluer. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur la pédagogie. J'ai appris beaucoup de choses sur comment on explique les choses aux gens. Comment les gens comprennent des concepts. Comment on structure, on va dire, un apprentissage, un cours, quelque chose comme ça. J'observais comment ça marchait pour les gens, comment ça marchait pas, etc. Je ne savais pas que ça m'intéressait autant. J'ai passé toute ma vie étudiante à expliquer beaucoup de choses à mes collègues. Ça m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, si vous voulez progresser à un sujet, trouvez des moyens à devoir l'expliquer aux autres et ça marche parfaitement. Ça marche très très bien pour bien comprendre un sujet, maîtriser un sujet. Mais je me suis jamais posé la question de comment ça fonctionne en fait. Quel est le mécanisme qui fait que quelqu'un va retenir un concept, une réponse à une question et ça. Cette expérience-là m'a beaucoup aidée après dans la vie professionnelle. Quand je me suis retrouvée à devoir encadrer des juniors, ça aide beaucoup ça aide à avoir cette réflexion, à comprendre comment on explique les choses et que ça marche pour les gens. Donc je finis mon master. Et un an après, ou 2 ans après, je ne me rappelle plus, j'ai déménagé en France. J'ai décidé de déménager en France pour des raisons personnelles, on va dire ça comme ça.
Ok.
Pour l'amour.
Ah.
La meilleure raison qui est. Que j'ai nié beaucoup de temps dans ma tête, je me suis dit, mais non, il ne faut pas que ça soit pour l'amour, il faut que ça soit pour d'autres choses, parce que ce n'est pas sustainable. Parce que l'amour vient...
C'est quoi sustainable?
Comment on dit sustainable?
Soutenable.
Soutenable, voilà. C'est pas soutenable. C'est pas... parce que il faut être réaliste et il faut savoir que l'amour vient et passe et vient et passe. Ouais. Il se trouve que c'est pas passé, donc c'est plutôt bien.
C'est bien.
Mais
ça continue encore.
Ouais. Mais je ne voulais pas que ça soit pour ça, donc je me suis dit bah c'est bien. Et aussi j'ai trouvé que la société française et ses valeurs et la manière dont ça marche, dont les gens fonctionnent. Donc ça marche pas à la société, mais dont les gens fonctionnent. Les gens, très individuellement, pas en tant que... Parce qu'en tant que société, ça m'intéresse plus ou moins. Mais comment les gens interagissent les uns avec les autres, c'est très important parce que ça fait partie de la vie. C'est le quotidien de la vie. C'est ce qui donne ou pas le bonheur. Enfin, c'est ce qui crée le bonheur, d'une certaine manière. La manière dont ça fonctionnait en France, ça me correspondait d'une certaine manière. Je me rappelle, j'avais un copain qui avait déménagé parce qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent à l'étranger de Roumanie.
Ouais.
Je pense que c'est le deuxième pays après la Syrie et les autres, ils sont en guerre, les pauvres. Nous, on n'a aucune guerre. On se casse de notre pays. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, il y a plein de gens qui déménagent. J'avais un copain qui avait déménagé en Angleterre. Lui, il a toujours été... Enfin, tout le monde qui a appris cette nouvelle, tous nos copains qui ont appris cette nouvelle se sont dit, ça lui correspond parfaitement. C'est une culture... Lui, il est comme ça. Lui, il est british, il est britannique.
Il boit du thé.
Oui, voilà. Par exemple, il buvait du thé ou des choses comme ça. Et moi,
toi, c'est la France qui te correspondait.
C'est exactement ça. En faisant cette réflexion, je me suis dit, moi, la France, ça me correspond. Ça correspond à comment je suis,
Et du coup, tu bosses pour XWiki. Tu y fais quoi exactement? Parce que là, a priori, tu dois faire du code.
Je ne fais
pas
du code.
Sur un coin de table.
Alors, pas sur un coin de table. Donc, ça, c'est... Donc, pour XWiki, aujourd'hui, je suis architecte de solutions. Architecte de solutions, chez nous, c'est... Donc, XWiki, c'est un... Il faut expliquer cette partie-là. XWiki, c'est un logiciel libre. fait des, qui c'est un logiciel qui permet de faire des wikis, donc des bases de connaissances, de partage de connaissances.
Un peu comme Wikipédia.
Un peu comme Wikipédia, mais c'est un autre logiciel. Et XWiki, donc les fonctionnalités d'XWiki sont orientées pour une utilisation en entreprise, donc pour les gens dans un contexte professionnel. Si Wikipédia, c'est un peu pour des contributeurs geeks qui peuvent utiliser, je sais pas, qui peuvent utiliser une syntaxe, ou si les wikis à la base, c'était pour les gens geeks qui pouvaient utiliser une syntaxe pour décorer le texte ou des choses comme ça. XWiki, c'est un logiciel qui est destiné à des utilisateurs qui ne sont pas du tout techniques et que l'idée, c'est que tout le monde vienne et contribue des données et constitue une base de connaissances des gens qui travaillent ensemble, d'entreprise ou d'une équipe, d'une entreprise, des choses comme ça, pour justement capitaliser ces connaissances et profiter de la valeur de l'intelligence commune qui est l'intelligence d'une équipe de gens qui travaillent ensemble. Et on fait ce logiciel libre qui permet de faire ce genre de base de connaissances, mais il y a beaucoup de gens qui veulent mettre en place ce genre de base de connaissances dans leur entreprise, mais qui n'arrivent pas à maîtriser le logiciel tout seul. Donc, qui doivent, qui veulent faire quelques personnalisations, quelques adaptations, quelques, la mise en place sur l'infrastructure technologique de leur entreprise, enfin, toutes ces choses-là. Et, ils ont besoin d'aide pour ça. Donc, soit ils forment quelqu'un en interne, soit ils font appel à une équipe d'experts qui savent faire ça. Il se trouve que chez XWiki SAS, il y a plein d'experts qui savent faire ça.
Ça tombe bien.
Donc, plusieurs dimensions. Moi, je suis sur la dimension accompagnement à la mise en place, donc architecte de solution, c'est-à-dire il y a un client à un moment donné qui a des besoins, qui veut faire des choses, qui a une vision de comment ça doit se passer, le partage de connaissances dans son entreprise. Il vient, il le raconte à l'expert. Pardon, il vient, il signe un contrat, il paye de l'argent, il le raconte à un expert.
Il te le raconte à toi, donc.
Il me le raconte à moi, et moi, je ponds. C'est ça le mot que j'utilise. C'est exactement ça. Ma responsabilité, c'est de trouver une solution qui répond à son besoin.
D'accord.
Donc, il y a l'écoute, il y a donc l'écoute du besoin, la compréhension du besoin, l'architecture, c'est pour ça qu'on appelle ça architecte de solution, parce que l'idée c'est de trouver les composantes techniques qui vont donner une réponse aux besoins.
D'accord.
Donc finalement l'objectif c'est de répondre aux besoins par tous les moyens possibles. Donc trouver des composantes techniques qui vont permettre de faire, donc assemblage des composantes techniques. S'il y a un bout de code qui n'existe pas, donc s'il y a une fonctionnalité qui n'existe pas, on va l'écrire, le bout de code, on va coder la partie qui manque. On va donc toutes ces choses-là, tout ça en intégrant dans le en intégrant tout ça en bonne relation avec le logiciel libre qui est édité par XWiki SAS, qui est donc le logiciel XWiki. Ces solutions, on va les construire par-dessus d'XWiki, et l'idée c'est de rapatrier toutes les bonnes idées sur le produit, c'est-à-dire de faire avancer le produit à la fois par le financement qu'on apporte, parce qu'on produit, donc comme je disais, il signe un contrat et ça, à la fois par le financement, mais aussi par notre expérience et par ce qu'on voit et ce qu'on constate du problème de partage de connaissances à l'entreprise.
Du coup, j'en conclus que le produit s'améliore au fur et à mesure que vous avez des nouveaux clients qui vont avoir des spécialités différentes.
On a aussi nos propres...
qui sont à chaque fois intégrés au logiciel de base.
On a aussi nos propres idées. Les idées des clients ne sont pas intégrées directement à Non, c'est pas ça l'idée. On les transfère pas direct, en fait. C'est nos clients nous permettent d'observer ce qui est nécessaire et comment on l'utilise, etc. Mais on ne prend pas les idées pour les mettre directement dans le logiciel. Mmh. On a une gouvernance du produit open source qui est une gouvernance pure communautaire. C'est-à-dire, tout est discuté sur le forum communauté, tout le monde peut venir, tous les contributeurs peuvent venir et voir comment les décisions sont prises et participer à la prise de décision. Donc on a une gouvernance qui est 100% open source. Il se trouve que des gens qui participent à la communauté, il y en a beaucoup qui sont payés par XWiki SAS parce que c'est comme ça, mais sinon l'entrée est ouverte, l'observation de ce process est aussi 100% ouverte. Il n'y a rien qui se passe à part le fait qu'XWiki SAS décide sur quoi travaillent les gens qui sont payés par XWiki SAS, qui est tout à fait le droit d'XWiki qu'essaie de faire. À part ça, le process, il est complètement dans l'open source.
Je rappelle que XWiki est membre de l'April et qu'on leur remercie pour ça.
Et je précise que si vous souhaitez en savoir encore plus sur XWiki, vous pouvez écouter donc le fameux Ludovic Dubost dont on parlait tout à l'heure dans l'émission 57, donc sur libreavoue.org/57.
Alors, du coup, je vais te poser une question que tu n'aimes pas, je le sais, mais on en a souvent discuté lors des salons. Tu es une femme, tu es codeuse, tu es développeuse, tu as quand même une présence. quel est ton sentiment dans notre communauté libriste? Est-ce que tu as des soucis avec le regard des autres? Pas du tout, tu t'en rends pas compte? Est-ce que tu te sens pas assez juste y mettre bonne valeur ou...
Malheureusement, je me suis rendu compte que j'étais une femme en informatique quand je suis arrivée en France.
Ah, c'était pas le cas en Roumanie donc?
Non. Si, en Roumanie, mais très peu. Cette idée de métier de femme, métier d'homme, on l'entend très peu en Roumanie. Et c'est une conséquence, je pense, des années communistes de la Roumanie où tout le monde devait participer également à la... Il y avait une expression comme ça qui était utilisée à l'avancement de la société multilatéralement développée. Enfin, il y avait un truc comme ça complètement propagandistique. Et mes parents, par exemple, mes grands-parents, ils travaillaient tous les deux dans les usines, voilà, pour le développement. Donc, il y avait pas de métier d'homme, métier de femme. Mmh. Tout le monde devait contribuer pareil. Et de ce fait, cette idée que ce métier c'est un métier d'homme, ce métier c'est un métier de femme est un peu disparue en fait. On n'en a pas parlé. Moi je n'ai pas entendu ah tu as fait une école technique ou une école on va dire, tu as fait une école d'informatique, c'est pas un métier de femme, t'es sûr que ouais. Tu veux faire ça, t'es sûr que tu veux pas choisir autre chose. Moi j'ai pas entendu ça. Si je l'ai entendu, mais j'ai fermé mes oreilles, j'ai pas voulu l'entendre, mais je l'ai entendu un tout petit peu. Il y avait cette légende urbaine que les filles font le café, les garçons, un binôme, les filles font le ouais. café, les garçons font le code. Il y avait cette légende que... Bref,
mais c'était pas... Moi, j'ai constaté.
Pardon ?
C'est pas ce que tu constatais.
Non, non, moi je faisais le code et je me faisais faire les cafés, hein, binôme. Globalement, pour les peu de binômes que j'ai fait, c'était plutôt moi le code. Et donc, je ne l'ai pas trop entendu. Par contre, en arrivant en France, et on va dire, même dans le monde technique, j'ai peur que j'ai commencé à entendre ces discussions de femmes dans la technologie, plus, en fait, quand ça commençait déjà à être mieux. Je me rappelle le premier FOSDEM. FOSDEM, c'est le Free and Open Source Developers European Meeting. C'est une grande conférence libre à Bruxelles qui a lieu tous les février, des libristes de toute l'Europe et aussi du monde entier. Je me rappelle le premier FOSDEM quand je suis allée en 2008, il n'y avait pas des sanitaires femmes en fait.
Oui.
Il y avait les
urinoirs hommes.
Ça se passe à l'Université libre de Bruxelles, donc il y avait déjà les locaux de l'université qui avaient déjà des étiquettes sur leur sanitaires.
D'accord.
Les hommes étaient restés hommes, ça, on les a gardés. Et pour les toilettes femmes, c'était un papier mis par-dessus, marqué mixte, en fait.
D'accord. C'est-à-dire il y avait tellement peu de femmes
qu'ils avaient même redirigé un peu le truc, ils se sont posés zéro question. Ça, c'était en 2008. Aujourd'hui, il n'est plus possible de faire ce genre de choses. Et on parlait très peu à l'époque de ça, du fait qu'il y a peu de femmes. On n'en parlait pas tant que ça. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mon problème avec ça... c'est qu'on est tous on est des professionnels d'informatique. Moi, je préfère être regardée comme ça. Je préfère que quand on me voit et qu'on m'entend parler, on me regarde et qu'on m'écoute comme quelqu'un qui parle d'un sujet qui maîtrise, quel que soit le genre de la personne qui parle, qui n'est finalement très peu, qui n'est pas du tout relevant.
Ne devrait pas rentrer en compte.
Mais qui ne change rien au fait que ce que je dis sur l'informatique a du sens ou pas. C'est mon code, il n'y a pas de... Enfin, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, oh, ça, c'est du code de femme. » Ça n'existe pas, ce truc-là. Je sais pas de quoi ils parlent, les gens. Donc, moi, je préfère qu'on fait ça, qu'on regarde les gens comme ça, comme des professionnels, et qu'on arrête de parler de ce sujet-là. Moi, ça me gêne beaucoup en conférence aujourd'hui, si je propose des sujets et que je suis acceptée pour parler... J'ai toujours une voix au fond de ma tête qui se demande, t'es sûr que tu parles parce que les gens ont envie d'écouter ce que tu dis ou tu es là pour parler, pour augmenter le nombre de femmes du programme parce qu'ils ont besoin de remplir des quotas. Et c'est très mal, c'est extrêmement mal.
Ça te met mal à l'aise ?
C'est pas que ça me met mal à l'aise, mais ça... Si moi j'ai ce doute, les gens qui voient des femmes au programme ont ce doute également. Se disent, est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle va dire un truc intéressant ? Pas de moi, mais de qui que ce soit d'autre. Est-ce qu'elle est là parce qu'elle a quelque chose d'intéressant à dire ou est-ce qu'elle est là parce qu'on a rempli des quotas ? Donc on ne va pas aller la voir. Parce que peut-être qu'elle va juste dire rien d'intéressant parce qu'elle est là pour remplir des quotas. Et ce n'est pas bien de faire ça. Et surtout pour la... Je pense que Mais je me trompe peut-être, parce qu'il y a quand même des avantages de la discrimination positive, mais je pense que ce serait peut-être plus intéressant de ne pas parler de genre du tout. De dire, en fait, quel que soit ton genre, ne nous intéresse pas. Alors, dans un sens comme dans l'autre.
Alors, petite question, est-ce que tu serais en faveur, par exemple, parce qu'aujourd'hui, sur les appels en conférence, en général, on remplit une bio avec nom, prénom, bio. Est-ce que tu suggères de faire des appels à conférence quelque part anonymes ? Où il n'y a que le sujet qui est présenté, même si c'est difficile de faire de rester anonyme si je viens présenter au X-Wiki, par exemple.
Il y a une difficulté à ça, qui est que moi, je comprends tout à fait que les gens qui sélectionnent des conférenciers pour des conférences ont besoin d'avoir une idée de la capacité de cette personne à présenter des choses en public. S'ils veulent que ça soit intéressant, moi, je peux comprendre qu'ils cherchent les gens sur Internet pour voir comment ils parlent. Moi je le ferais en fait. Si je dois sélectionner, je regarde, je vois en fait qui est cette personne, où est-ce qu'il est parlé avant, etc. Ça aussi parce que à force d'aller à Fosdem, on parlait un peu de tout le temps, et c'était un peu la loterie. Des fois on allait sur un sujet hyper intéressant, la personne qui présentait était pas du tout intéressante, c'était mal présenté, c'était mal fait, etc. Donc moi je peux tout à fait comprendre qu'on veut vérifier qui va venir et qui va parler et quelles sont les capacités de public speaker, quelqu'un peut m'aider, de orateur.
D'orateur, ou d'oratrice.
De la personne qui présente. Voilà. Donc, non, pas forcément. Je veux juste qu'on arrête de parler de ça. C'est pas que, en fait, c'est pas par l'anonymisation qu'on va arrêter de parler du sujet. En fait, il faut juste le sortir de sa tête, se dire ce n'est pas relevant, ça nous intéresse pas le genre des gens. Arrêtez de regarder quelqu'un et essayer et voir d'abord le genre de la personne. Il y a pas plein de choses intéressantes sur les gens, et surtout il y a beaucoup de gens qui ne s'identifient pas de manière, on va dire, pardon.
Il y a des gens qui ne s'identifient pas de façon binaire.
Voilà, donc c'est absolument une horreur absolue pour ces gens-là qu'on essaie de les regarder et de dire, mais c'est quoi le genre de cette personne ? Moi, je m'identifie de manière binaire, donc mais ça me gêne quand même qu'on me regarde et qu'on essaie de voir quel est mon genre et on essaie de mettre une étiquette, des a priori, des trucs et des idées et des pensées dans ma tête à base du genre qu'on a identifié en me regardant.
Alors, on a eu cette conversation à Toulouse cette année.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'il y avait le Capitole du Libre et que l'année dernière, cet événement avait été fauché par des participantes, comme quoi il n'y avait pas d'oratrice en nombre suffisant. Et c'est vrai que cette année, quand dans le comité de choix du programme, il y avait des filles et des mecs, donc ils avaient essayé de bien équilibrer le comité, et on choisissait, alors je dis on parce que j'ai eu la chance d'en faire partie, et on choisissait les conférences. Mais je me souviens pas qu'on s'est dit on va prendre cette conférence là parce que c'est une fille, même si on sait que c'est nul. Je pense qu'il y a quand même une barrière, une exigence de compétence de l'orateur ou de l'oratrice. Donc je pense que si tu disais de la merde, tu serais pas acceptée. Voilà, c'est pas ça pour te rassurer. Je te dis juste que les gens qui font un programme, ils veulent quand même un bon programme et pas un programme.
Oui, c'est vrai que ce que je suis en train de dire, ça manque légèrement de respect pour les gens qui font les programmes, parce qu'effectivement, ils vont faire du bon travail. On leur fait confiance quand même, que voilà, qu'ils vont faire le mieux qu'ils peuvent. Mais oui.
Faut que j'ai confiance en eux comme ils ont confiance en toi.
Tout à fait. Après, c'est une très bonne question, pas pour cette émission parce que c'est extrêmement, enfin, ça va être très long, mais c'est une très bonne question de pourquoi l'année d'avant il n'y avait pas assez de femmes dans le programme. Est-ce que parce qu'il n'y a pas eu des propositions, ou est-ce que parce que la sélection fait que les projets plus intéressants ou les sujets plus intéressants ou j'en sais rien étaient présentés par des hommes, on va dire ça large, parce que bon, on vient de dire que tout le monde n'est pas binaire.
Après, il y avait à l'époque, il y avait aussi un petit souci, c'est que par exemple, alors j'ai pas la réponse par rapport au questionnement que tu te poses, mais sur il y avait par exemple des intervenants qui avaient eu 3 ou 4 ouais, slots d'intervention. Et donc effectivement,
ça,
on pouvait se dire,
c'est-à-dire
qu'on peut dire qu'à un moment, et c'est vrai que d'un point de vue organisateur, comme tu disais tout à l'heure, les personnes qui organisent, c'était rassurant de se dire, tiens, cette personne-là, je sais comment elle parle, elle va bien parler, etc. Mais de là à lui donner 3 ou 4, alors je sais plus si c'était 3 ou 4, mais je sais très bien qui c'était en plus, mais je donnerai pas de nom parce que voilà, c'est
bon,
pas pour lui tomber
tout,
dessus, mais en tout cas, lui donner 3 ou 4 slots d'intervention Ben forcément ça laisse moins de place pour les autres, donc c'était une des raisons qui faisait qu'en fait voilà. Et je trouve qu'effectivement quand on donne autant de place à une personne, ben ça limite sur les autres. Et voilà, est-ce que tu appelles la discrimination positive quelque part, c'est de l'action positive pour essayer de rétablir aujourd'hui une discrimination très forte qui est le monde dans le monde des conférences et même dans le monde de l'informatique libre. Et Isabelle Collet le dit clairement, elle le dit, c'est aujourd'hui la seule, c'est pas la façon, c'est pas la solution idéale, mais c'est la seule qui fonctionne aujourd'hui.
C'est
malheureusement
J'admets que je n'ai pas du tout de compétence à dire si c'est la meilleure solution ou pas. Personnellement, je préfère que les gens ne voient pas mon genre. Mais oui, ça passe peut-être par ça. Ça passe peut-être par la diversité.
Alors, j'ai une question là-dessus. Récemment, je discutais avec une intervenante qui a vraiment beaucoup l'habitude d'intervenir et qui me disait qu'encore récemment, elle pouvait se faire démonter en conférence par des hommes. J'étais très étonné.
Moi, ça ne m'a jamais arrivé.
D'accord, ok. C'était ma question. Si ça m'était déjà arrivé, d'accord.
Ou bien, si ça m'est arrivé... je ne l'ai pas vu comme ça, parce que tu m'as posé tout à l'heure la question à la pause de est-ce que j'ai jamais souffert dans mon métier du fait que je suis femme. J'ai souffert des choses dans mon métier, enfin souffert c'est vite dit, parce que c'est pas de la, il y a de la vraie souffrance dans le monde, c'est pas dans le métier d'informatique, que ça soit très très clair.
C'est des souffrances différentes. C'est ta souffrance à toi, donc si.
La frustration, d'humiliation.
Voilà, de la frustration. Non, d'humiliation, okay. J'ai jamais vécu ça. Enfin, mais frustration, oui, ou des choses comme ça. J'ai vécu de la frustration ou des trucs. Après, est-ce que c'est parce que je suis femme? J'en sais rien. Probablement non, en fait. Parce que tout le monde vit des choses désagréables. Après, ça dépend où est-ce qu'on veut les, à quoi on veut les attribuer. Ce que je disais à un moment donné à des amis qui sont venus roumains en France et qui ont commencé à créer discrimination à base de nationalité partout. Ah, ils me discriminent parce que je suis roumain. Ah, ils me regardent comme ça parce que je suis roumain. Parce qu'il y a aussi une réputation qui n'est pas extrêmement favorable. Il y a au moins il y a 5 ans, il y avait une réputation.
Toujours aujourd'hui. Toujours. Hein. Dans certains. Enfin, je veux dire,
oui,
on va pas rentrer dedans.
Il n'y a pas la méga réputation. C'est pas une super réputation. Voilà, donc j'avais des gens qui criaient à la. Des copains qui criaient à la discrimination. Et moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que moi, je n'ai pas vécu une seconde de discrimination. Et je me suis dit, ça dépend comment tu regardes les choses. Il y aura des choses, il va se passer des choses. Après, si tu cherches la discrimination, tu vas voir la discrimination, que ce soit à base de genre ou à base de nationalité ou à base de culture. Si tu ne la cherches pas, tu la verras pas. C'est un biais cognitif, j'ai oublié le nom, qui explique ce phénomène-là.
D'accord. Donc, on peut se mettre des œillères pour ne pas voir la discrimination?
C'est pas des œillères, c'est que... On ne sait pas si elle y est ou pas.
D'accord.
Moi, je peux pas savoir.
Toi, tu gardes le
doute. Moi, je peux pas savoir ce qui est dans la tête de quelqu'un d'autre. Un collègue homme qui ne m'écoute pas quand je lui parle.
C'est le biais de confirmation.
Oui, je pense. Oui. Un collègue homme qui ne m'écoute pas quand je lui parle. Il m'écoute pas quand je lui parle parce que nos méthodes de travail ne fonctionnent pas ou parce que je suis femme. Je ne peux pas savoir. Je ne suis pas dans sa tête. Et d'ailleurs, ça se trouve, même lui, il ne le sait pas. Parce que des fois, il y a des choses qui viennent de la culture, de l'éducation. On ne se pose pas trop de questions sur nos propres biais, par exemple. Mais et ça, moi, je ne peux pas le savoir. Et si je veux me dire dans ma tête, c'est parce que je suis femme, je vais me dire, il y a de la discrimination partout. Si je veux me dire dans ma tête, il faut que je comprenne à quoi réagit cette personne-là et comment il faut que je pose... La question, comment il faut que j'explique le problème pour que ça correspond à sa méthode de fonctionner et qui m'écoute et qui voilà et qui me suit et j'en sais rien, je vais me poser cette question là et je vais chercher dans cette direction là et pas dans la direction de je suis femme de toute manière, il va jamais m'écouter.
D'accord, donc c'est un point de vue. Tu vas pas imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. Tu vas essayer de trouver une solution pour qu'il t'écoute.
On ne peut pas savoir. De toute manière, ça c'est une vérité. On ne peut pas savoir ce qui est dans la tête de l'autre. On peut savoir ce qu'on s'imagine qui est dans la tête de l'autre. Il ne faut pas s'imaginer la discrimination. Si on s'imagine la discrimination, il y a de la discrimination partout. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et on cherche d'autres moyens.
Ça marche aussi avec le complot, là, ce que tu viens de dire.
Ça ressemble, oui, ça marche beaucoup avec le complot, tout à fait.
Est-ce que du coup, tu voudrais nous dire autre chose sur ta vie de libriste ?
Oh, sur ma vie de libriste, cette chose-là, la vie dans une entreprise, la vie dans l'informatique qui fait du libre et l'expérience dans la dans le financement du libre et dans le... Moi, ça m'a beaucoup appris et je me suis rendu compte que par rapport à mes aînées étudiantes où dès que je voyais une mention d'argent sur la page d'un projet open source, je criais scandale. Ah, mais non, c'est pas des vrais. Ceux-là, c'est les... Oh! Et tout ça. Parce que je ne comprenais pas, parce que personne ne m'avait expliqué comment ça marchait. En fait, globalement, l'amalgame le plus facile, c'est libre égale gratuit. Et on fait beaucoup... Enfin, voilà, on parle beaucoup... on fait beaucoup ce raccourci-là. C'est le raccourci que j'avais quand j'étais étudiante. On m'avait expliqué la licence, mais la licence est compliquée et assez technique. Et donc, le fait que je l'ai vécu dans ma vie professionnelle chez XWiki, ça m'a très vite appris comment ça marche vraiment. C'est-à-dire les boutons sur les pages des projets open source, les boutons « donnez-nous des sous » avec des sommes dessus, ça avait beaucoup, beaucoup plus de sens tout d'un coup.
Il faut cliquer.
En même temps, ce qui est compliqué, c'est quand on est étudiant, ce bouton-là ne s'adresse pas vraiment aux étudiants. Ce bouton-là, il s'adresse aux gens qui ont des budgets, qui peuvent dépenser.
C'est-à-dire les parents des étudiants, alors Les grands-parents des étudiants?
Non, les parents des étudiants qui sont cadres dans des grosses entreprises, qui construisent toute leur infrastructure numérique à base de briques libres et qui ne contribuent pas ni un rond, ni une ligne de code à ces projets libres.
D'accord.
On va dire à ces gens-là. Donc, en tant qu'étudiant, effectivement, on n'a pas 5 euros à donner à un projet libre ou des choses comme ça, surtout en Roumanie. Et donc, ça m'a appris beaucoup sur ça, sur le financement du libre, sur comment ça fonctionne. Ça m'a convaincue que la création du code libre et open source doit s'inscrire dans une économie. Quelle que soit cette économie, que ce soit l'économie classique qu'on connaît ou des économies alternatives ou des manières de fonctionner alternatives, mais doit s'inscrire dans une dynamique qui permet aux gens de vivre de ça. Donc on revient à ça, on revient au fait que si on met de l'énergie pour produire quelque chose dans le monde, on a tout à fait le droit de vivre de ça. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant pour l'humanité en général qu'on puisse vivre de ça que le fait qu'on le fasse dans son temps libre. Pour moi, c'est ça comment dire, la grande valeur, on va dire, de cette expérience que j'ai dans le libre, c'est d'imaginer le monde comme ça. De dire, voilà, j'ai envie de vivre dans un monde qui fonctionne comme ça.
Où chacun peut contribuer à sa manière, soit en donnant de l'argent, soit en donnant du temps, soit en donnant du code.
Et vivre, et si on fait du code, et si on fait des projets, on vit de ça, on peut vivre de ça.
On peut vivre de sa passion de sa passion de faire du code ou de maintenir un projet.
Oui, et surtout ensemble, parce qu'il y a aussi une partie de... Quand on parle de ses contributions et quand on parle de vivre de ça, c'est pas forcément par l'argent, ça peut passer par un autre code libre. Moi, je fais une brique libre pour faire ça, quelqu'un d'autre fait une brique libre pour faire autre chose. Moi, j'ai le besoin auquel répond la brique libre de l'autre, je l'utilise parce qu'elle est libre, je peux... Voilà, eux, ils utilisent ma brique à moi, etc. Donc, il y a aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de communautés dans cette manière de fonctionner-là. La manière du partage, en fait, du libre qui représente du partage et qui permet à tout le monde de vivre heureux. Potentiellement s'enrichir, mais je pense, moi, c'est pas tout à fait le... Enfin, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a besoin de s'enrichir pour être heureux dans la vie ou pour vivre? Est-ce que ça fait partie du monde?
Alors, pour certains, oui. Pas moi, parce que moi, je suis...
Non,
pas
mais
riche.
Voilà, pour certains, oui. Après,
c'est pas ça qui contribue au bonheur.
Je sais pas. Pour certains, peut-être oui. Moi, je vais pas dire, t'as pas le droit d'exister si tu veux t'enrichir. Tout le monde a le droit de... Voilà. C'est s'enrichir dans le respect de l'autre, j'ai envie de dire. Si on peut s'enrichir dans le respect de l'autre, c'est génial.
C'est pas mal. Du coup, nous, on va s'arrêter là, puis on va sûrement continuer à discuter après.
Mais vous aviez encore 2-3 minutes, si vous vouliez. Hein, si vous aviez...
Est-ce que tu as autre chose à dire?
Soit une dernière question, soit un message à faire passer, je ne sais pas.
Un petit message à faire passer?
Ah, c'est un petit message à faire passer.
Petit.
Je sais pas, j'ai pas préparé de message à faire passer.
Alors moi j'en ai un, hein, si vous voulez. Vous pouvez donner à l'April, hein, mais vous pouvez aussi adhérer à l'April, hein, j'en profite, hein. Je prends ma casquette de présidente. En tout cas pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas. Fred?
Non, je sais pas, en cas.
J'ai envie de dire quelque chose de plus, comment dire, plus conclusif sur ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais j'ai aucune idée comment on peut conclure ça. C'est
Mettez en place un wiki, faites un don à Open Food Fac, trouvez un produit que personne ne connaît et allez le mettre
venez
sur la
en France pour bien manger.
Venez en France pour venez en France pour bien manger et pour.
Je fais le lien entre le début et la fin de la partie.
Tout à fait,
j'ai piqué
fait.
Mon collègue Étienne Gonu qui est sur le salon qui me sert. En tout cas, j'en profite le temps que tu réfléchis, puis si tu trouves pas, il y a pas de souci. Hein. Marie Odile, donc qui est administratrice de l'April et qui fait aussi le qui s'occupe beaucoup des transcriptions, te félicite pour ce beau parcours.
Oui.
Effectivement, et c'est une des choses qu'on aime bien dans ce parcours libriste, ce format, c'est de mettre en valeur des beaux parcours. Voilà, même si c'est d'un format relativement court, parce que bon, c'est que 45 minutes, une heure, donc voilà.
Moi, je vous avoue que je ne trouve pas grand chose d'extraordinaire à ce parcours. C'est peut-être parce que je le vois de l'intérieur, et c'est peut-être pour ça que je ne trouve pas de conclusion.
C'est parce que tu le vois tous les jours, alors que nous, le voyons rarement, on est plutôt en admiration.
Non, mais s'il y a une conclusion à faire, surtout d'ailleurs, sur, je sais pas, sur le parcours, sur le changement de pays, venez en France pour manger bien, etc. C'est ne pas se poser trop de questions sur ce qui est métier de femme, métier d'homme, truc. Suivre l'envie.
Faites ce qu'on aime.
Faire ce qu'on aime, suivre l'envie, ça va amener à un bon endroit. Si, je sais pas, s'il y a l'énergie. J'espère qu'il y a une forme de... Moi, je crois beaucoup à l'idée que si on veut retrouver quelque chose dans le monde, il faut le mettre soi-même. Parce que sinon, il n'y a pas moyen qu'il se retrouve dans le monde. Donc, mettez dans le monde ce que vous avez envie de retrouver dans le monde. J'ai envie de retrouver des logiciels libres, j'y mets. J'ai envie de trouver de la bienveillance, j'essaye d'y mettre. J'ai envie de trouver du respect, j'essaye d'y mettre aussi.
Moi, je trouve que c'est une magnifique conclusion, ça, non ?
Je crois qu'on peut difficilement rêver mieux, hein. Donc, merci. Donc, c'était Anka Luka, donc directrice technique de l'équipe service client de la société XWiki, présidente bénévole d'Open Food Fax, Magali Garnero, présidente bénévole de l'April et dont le métier passion est la
libraire. Oui, parce qu'on aime.
Voilà, qui te permet de t'enrichir.
J'ai beaucoup d'épanouissement, oui.
Voilà, exactement. Et donc, les références citées pendant l'émission, on les a rajoutées sur la page consacrée à l'émission du jour, donc sur libreavoue.org/196. Vous retrouverez les liens vers l'émission qui parle d'Open Food Facts, XWiki, le FOSDEM également, et je rajouterai les liens qui manquent. Alors,